ABD Podcast, toute l'information vulgarisée sur les sciences du sport appliquées au terrain. Préparation physique, réathlétisation, réhabilitation fonctionnelle, prévention, récupération, vous apprendrez tout des meilleurs experts de la planète prépa physique. Bonjour à tous, Aurélien Broussel-Derval pour un nouvel épisode ABD Podcast. Je reçois, non sans plaisir, avec du rythme ce matin, il est dans le rythme, Didier Reiss. Didier Reiss, merci de venir nous rejoindre, c'est cool.
Merci de l'invitation, en plus c'était facile pour venir là.
C'est en bas de la route, Lyon-Paris en bus.
C'est...
Alors je suis hyper content de recevoir Didier. Alors Didier, vous savez quoi, c'est mon meilleur concurrent.
C'est ça qui est bon.
C'est mon meilleur concurrent. D'abord, il est formateur en sciences du sport, en méthodologie de l'entraînement, en préparation physique. Il est entraîneur, puisque préparateur physique, puisqu'il coache des footballeurs professionnels depuis des années. Très accessoirement, il est auteur, puisque c'est l'auteur du livre bien connu, La Bible de la préparation physique, que je vous recommande d'acheter parce que... C'est un bel objet qui sert à caler les portes, à éventuellement faire du step, du travail lesté.
Moi, je fais des étirements, je monte dessus pour toucher le sol.
Voilà, par exemple, effectivement, en toe touch amélioré. Il y a quand même près de 2000 références scientifiques actualisées, justifiées par des exemples de terrain. C'est quand même un bel outil pour apprendre notre métier et c'est sans doute un incontournable aujourd'hui. Je te félicite pour ce travail, je sais à quel point ça n'est pas rien.
Oui, sinon, on pouvait le télécharger gratuitement sur les sites pirates. J'ai vu qu'il y était.
Ouais.
Coupé.
On les mettra en cumulus sur la version augmentée sur mon site web. Alors, Didier, c'est cool de t'avoir. Il y a un thème qui te caractérise encore plus particulièrement que certains, même si je sais qu'il ne faut surtout pas te limiter à ça. Mais quand même, tu es le capitaine de la team lactate.
Oui, par défaut.
Ou autoproclamé, je sais pas.
Oui, c'est même désolant en fait, parce que si ça revient, si c'est redondant, c'est parce qu'il y a un message qui ne passe pas dans la littérature française. Il y a un message qui ne doit pas passer du tout là-dessus. Tous les deux, on enseigne, on voit des professionnels, on voit donc du monde professionnel, je veux dire, du haut niveau, et donc des fois même ce qu'on appelle du très haut niveau, et on continue avec effectivement cet acide lactique. Et comme on disait tous les deux en rigolant, acide lactique. Enfin, quelque chose qui est très très long à prononcer finalement.
Parce que c'est vrai que l'argument souvent c'est de dire ouais, ça va, arrête, c'est plus simple de dire ça.
C'est plus simple.
Même ça se discute.
C'est plus simple.
Purement étymologique.
C'est plus simple, c'est plus rapide ou c'est pour que les gens comprennent. Je ne sais pas ce qu'ils ont plus compris. D'ailleurs, si on prend un lambda dans la rue, qu'on lui parle d'acide lactique, je ne sais pas s'il comprend moi quelque chose.
Non, probablement pas. Alors, l'acide lactique, le fond du problème, bon, c'est d'abord d'utiliser les bons mots pour les bonnes choses. Je pense que c'est quand même important. Nicolas Boileau disait que ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire viennent aisément. Du coup, à un moment donné, c'est bien quand même d'appeler un chat un chat. À plus forte raison quand l'erreur sémantique induit une erreur de perception. Parce que pour moi, le fond du problème, c'est ça, au fond, que quelqu'un dise acide lactique alors que dans les faits, il respecte bien les temps d'effort, les temps de récup et qu'il organise bien sa séance. Finalement, c'est moindre mal. Et du coup, beaucoup de gens doivent interpeller. En tout cas, moi, m'interpelle là-dessus en disant « Bon, les gars, faut quand même pas exagérer. » Et tu dis « Ouais, mais le problème, c'est quand même que acide lactique, ça renvoie à quelque chose de négatif, à quelque chose qui stoppe l'effort, à quelque chose qui est perçu comme anti-performance. » Et que du coup, on ne comprend pas quand même bien ce qui se passe. C'est ça que ça veut dire. On ne comprend pas ce qu'on est en train de provoquer chez les athlètes que l'on entraîne.
Moi, ça me gêne un peu de partout. Ça me gêne parce qu'effectivement, j'ai l'impression que celui qui entraîne et qui sort en fait ce mot-là et qui pense savoir se trompe effectivement. Et se trompe, ça veut dire sur ses raisonnements, sur ses conséquences, ce que tu as dit. Si on fait le tour de la littérature et de la littérature non scientifique, et ça marche, un micro. On a finalement, on a quoi? On a donc ça arrête les forces, on dit, ça brûle, ça pique, ça bloque la contraction musculaire. J'ai eu le droit aussi à des maux de tête.
Ça fait des trous dans les muscles.
Des trous dans les muscles. Oh, ouais. Mais vraiment, oui, lu.
Ça rend méchant. Hein.
Ça rend agressif. Ouais. Alors, il y avait donne envie de vomir, parce que l'acide lactique, après, il rentre dans le sang, donc ça fait baisser le pH du sang et c'est ça qui donne les vomissements. J'ai eu une fois mal de tête. Et je me suis dit, bon, attends, prochaine étape, cancer. Oh, à mon avis.
C'est sûr, on y va.
Alors,
Covid. Si...
Peut-être, quelque
c'est...
part.
Peut-être finalement. Une corrélation.
Ah, c'est une espèce de virus agressif qui mute. Bon, alors, c'est fatigant. Alors, là où c'est fatigant, c'est qu'on continue encore à vouloir aussi faire des exercices pour l'évacuer, puisque c'est un problème.
Bah oui.
D'où la récupération active. Et elle ne me gêne pas, moi, la récupération active, pour d'autres raisons. Mais si elle me gêne parce qu'on a besoin de l'évacuer impérativement, ça commence à me gêner. Ce qui me gêne au bout d'un moment, c'est l'incompétence qui est autour. Parce que est-ce que ça change vraiment le fond du problème? Des fois, par hasard, non. Parce que finalement, si on pense que c'est l'acide lactique le facteur limitant, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va s'entraîner à mieux le supporter.
Alors, du coup, on arrive au même résultat.
Ouais, du coup, ça va bien marcher dans ce cas. Il y a des fois, ça ne marche pas. Et là, dans ce cas-là, ça risque de fonctionner. Puisque l'idée, c'est d'en produire finalement plus et du lactate, pas de l'acide lactique. Alors, est-ce qu'on doit faire un petit topo sur le sujet? On a fait d'autres vidéos avec d'autres personnes. Mais en gros, le corps humain part du glucose. Et il existerait une forme, quelque part, acide de ça. Et ça ne l'est pas. C'est du glucose qu'il transforme et qu'il n'amène pas en un acide pyruvique qui serait une demi-forme de sucre et en un acide lactique, mais bien un pyruvate et un lactate. Mais directement. Il n'y a pas de « il est créé aussitôt broyé », c'est « il ne sera jamais créé », en fait. Les réactions sont assez claires. Donc, on arrive en fait au lactate. Lactate qui est finalement la voie normale en fait pour l'aérobie derrière. C'est-à-dire que c'est ça en fait. Si on respire en fait du dioxygène, ce n'est pas pour rejeter du CO2, c'est pour rejeter de l'eau. Et le CO2 est la conséquence de ce que l'on a en fait digéré, assimilé et utilisé. Et utilisé à ce moment-là, ça sera le glucose qui sera un lactate et qui rentrera dans la mitochondrie. Là, ça va devenir technique. On va peut-être pas passer trop de temps là-dessus. Il y a des
ouvrages,
des vidéos.
Non, mais c'est intéressant de rappeler tout simplement qu'effectivement, le lactate est un carburant qui va être utilisé, pour produire des efforts.
Ben, normalement. Et le système nerveux, ça c'était le premier article, c'est même sa consommation pure et dure. En fait, c'est ça qu'il utilise. Toutes les cellules nerveuses utilisent le lactate. Mais alors, prioritairement. Donc, si ça donne mal au crâne, c'est épatant. Parce que normalement, justement, c'est le carburant de base. Et c'est à partir de cet article-là qu'on s'est dit, mais est-ce que toutes les autres cellules, hormis la cellule nerveuse, utilisent de manière préférentielle le lactate? Et on se rend compte maintenant que oui. Ça veut dire qu'on a un article récent qui nous fait une petite flèche verte en disant le pyruvate rentre effectivement dans la mitochondrie, et une très très grosse qui montre que c'est le lactate qui finalement rentre prioritairement dans la mitochondrie. Mais c'est une révolution scientifique. Sur la vie, ça n'en est pas, parce que ça a duré depuis quelques millions d'années, cette histoire. Sûrement qu'on n'a même jamais sécrété d'acide lactique, hein, qu'on n'a jamais eu le pH pour. Mais alors, ce fait, j'ai envie de dire, établi, il n'est pas arrivé du jour au lendemain. Ça fait à peu près 25-30 ans.
Ce que dit Didier là sur l'acide lactique qu'on n'a probablement jamais sécrété, c'est une réalité. C'est-à-dire que les vrais physios sont tous bien conscients qu'on n'est pas capable, nous, enfin, l'être humain en tout cas, de tolérer des niveaux d'acidité pour pouvoir parler d'acide lactique. Donc le problème en fait est clos. Et ce qui est vraiment important de retenir là, le take-home message, c'est ce n'est pas l'ennemi. Okay, qu'on l'appelle acide lactique, lactate, finalement on s'en fout un petit peu, on va l'appeler lactate parce que comme ça s'appelle, non seulement ça n'est pas l'ennemi, mais c'est fondamental. C'est fondamental de s'entraîner à en produire en quantité et à l'exploiter en quantité pour être performant. C'est l'inverse de ce que les gens perçoivent quand ils parlent d'acide lactique qu'il faut faire sur le terrain en termes de méthode d'entraînement.
C'est marrant parce que tu as dit message. Et pour dire ami ou ennemi, en gros, il y a un article en anglais hein, qui s'appelle Lactate, ami ou ennemi. C'est assez simple, hein, finalement, le titre. Et ils font tout le topo de ça. Donc l'idée, effectivement, c'est que ce n'est pas un ennemi. Il faut en produire donc bah, davantage, oui. Mais il faut effectivement mieux l'utiliser. Mieux l'utiliser veut dire, si on en produit des grandes quantités dans la cellule qu'on n'est pas capable de l'exploiter, c'est là qu'on le retrouve dans le sang. Alors comme on le trouvait dans le sang, on se dit, bah, c'est que la cellule s'en est débarrassée. Si on n'est pas vraiment débarrassé, c'est que là, sur le coup, elle n'a pas assez de mitochondries, elle n'a pas assez de transporteurs pour le gérer. Ça veut dire qu'on n'est pas assez entraîné. Hein. Je veux dire, ça s'arrête ici. Moi qui fais un 400 mètres aujourd'hui, si je fais 1 minute 10, je crois que je serais content. 1 minute 10, ouais, oh, allez, on s'entraîne un petit peu.
Tu auras mal au crâne pour le coup.
Ouais. Et ouais, et j'aurai mal au crâne. Et je ferai 1 minute 10 avec un taux de lactate ridicule. J'ai encore un lactate pro à la maison. Il y a encore plein de petites capsules que je n'ai jamais ouvertes. Mais bon, allez, j'arriverai peut-être à 22 millimoles si ça ne vous parle pas. Allez, à 30, on est sans doute aux Jeux Olympiques. En m'entraînant un peu, si je fais 1 minute, peut-être que je vais monter à 24, 24,5, hein, je vais peut-être monter.
Alors, petite anecdote juste sur les lactates pro, je pense à ça parce qu'on a beaucoup utilisé ça en Grande-Bretagne, nous, parce qu'en France, vous savez que les prélèvements sanguins doivent être faits par un infirmier ou un médecin. On n'a pas le droit de le faire en théorie, surtout depuis l'affaire du sang contaminé, il faut faire gaffe à ça. En Angleterre, il n'y a pas ces problèmes-là, donc du coup, j'ai pu faire des prélèvements lactates réguliers. Et avec beaucoup de lactates pro, ce qu'on se rend compte, c'est qu'en fait, il y a une durée de vie sur l'appareil. Je ne sais pas si tu es au courant de ça. Il y a beaucoup de recherches.
Des capsules déjà. Et l'appareil lui-même.
L'appareil lui-même. Et du coup, il y a beaucoup de recherches qui sont faites aujourd'hui avec des appareils qui ont perdu en fiabilité, perdu en précision. Et du coup, les physios britanniques, eux, changent le Lactate Pro, la machine elle-même, celle qui vaut 600 ou 700 balles. Là.
Ouais, c'était, oui, 600.
Donc, ils en ont une dizaine, une quinzaine. Ils changent tout ça tous les deux ans. Et je me suis effectivement rendu compte, parce que moi, j'ai voulu quand même garder le mien jusqu'au bout, et je me suis effectivement rendu compte qu'il y avait une forme de sous-évaluation avec le temps du pH. Et du coup, c'est quand même un vrai problème. Et...
Super intéressant, parce que le mien est de 2001. Il a 19 ans, mon Lactate Pro.
Voilà, alors...
Il serait moins fiable. Je voulais l'utiliser pour mes étudiants, mais pour montrer comment ça fonctionne. Bon, soit je garde pour le principe. Regardez, c'est comme ça qu'on se pique le doigt et qu'on met une petite goutte de sang et qu'on jette ensuite le truc.
Ce qu'on n'a pas le droit de faire.
Hein. Ils doivent le faire eux-mêmes. Hein. On doit leur donner le matériel. Voilà. Ah, c'était ça la combine. Ouais, au lieu de prendre le doigt du gars avec le petit stylo diabétique, là. Ah tiens, voilà, tu le fais. Alors que ça se trouve, c'est la même petite aiguille hein, depuis...
C'est ça.
Non, c'est...
C'est bien, le mec est en sueur, c'est sorti d'un truc.
Dans la fémorale. Bon, donc les Lactate Pro, bon, après, ils ne me parlent plus, en fait. Je n'ai pas besoin de ça, parce que ce qui est dans le sang ne reflète pas ce qu'il y a dans le muscle. Ça s'appelle la clairance, ça. C'est la différence entre ce qui est produit à un endroit et ce que l'on retrouve ailleurs. Et donc, ce qui se passe entre les deux, on n'a aucune idée, en fait. Donc, ça parle pas beaucoup. D'ailleurs, j'avais fait, moi, avec Christine Hanon, c'était Christine Hanon, qui avait remplacé Miller, à l'époque, à l'INSEP. On regardait ça avec les boxeurs français. On leur faisait un test et on prenait, en fait, les lactates. À l'époque, j'avais l'impression que ça allait me parler. On s'était dit, tiens, ça va démontrer une grande glycolyse, donc une grande contribution dite anaérobie. Terme qui essaie d'être retiré de la littérature depuis 5-6 ans. On a un article complet de Karim Chamari qui fait un peu le topo sur aérobie et anaérobie en disant « ces deux termes devraient être évacués ». Alors, on essaie dans un prochain ouvrage de faire un petit topo là-dessus, mais moi-même, je suis conscient que tout le monde l'utilise. Là, si déjà acide lactique, ça n'arrive pas à passer en 30 ans, je ne te dis pas aérobie et anaérobie.
Bah, faut que tu vives longtemps.
Oh ouais, non, mais on va les garder du coup les termes, mais il faut être conscient que c'est presque un non-sens de l'anaérobie chez nous. Mais ça correspond finalement à des efforts intenses, donc ça parle quand même sur le terrain. Ça parle aux sportifs, ça parle à l'entraîneur. Et ça me parle aussi. Mais en biologie pure, en fait, là, ça ne paraît plus du tout, en fait. C'est vraiment un non-sens. Mais donc, ces fameux lactates dans le sang, ouais, qu'est-ce qu'on en fait à un moment donné? Et tu vois, je ne savais pas. Bon, je rachèterais peut-être quand même un jour un Lactate Pro, histoire de faire des petites manips à un moment donné. Donc, le mien, il est mort, quoi. Il a 19 ans.
En tout cas, cette génération-là, peut-être que sur les nouveaux modèles, ça va mieux. Mais, je ne suis pas sûr que ça ait beaucoup évolué.
Donc. J'avais acheté au Cress, hein, donc c'est Fortrainer, en fait. Maintenant, c'est pareil.
Le Fortrainer est la marque du Cress, ouais, tout à fait. Qui avait été fondée notamment par Georges Cazorla.
Ouais, d'accord. Et initialement, je pense, c'était une association, puis il avait refusé. D'accord. Au départ, je sais qu'ils étaient trois après.
Ouais, c'est ça. Bah, y a toujours Loïc et Marc. Loïc Bory et Laurent Labatte, ouais, Loïc Bory qui part diriger la performance de l'OM.
Petite, bah, soleil.
Petite parenthèse. Ouais, bah, juste pas mal, juste à Bordeaux.
Bon, mais c'est
vrai que c'est plus ensoleillé quand même.
Bordeaux, je fais un nom, il a fait flotter.
C'est vrai.
Dijon, il fait que flotter. Strasbourg.
Bon, petite parenthèse. Donc, sur le lactate, hein, mettons-nous bien d'accord là-dessus. Voilà, c'est quelque chose d'entraînable. C'est quelque chose de souhaitable. On ne cherche pas à s'entraîner, à éviter de monter en acidose. Tout ça n'est que fantaisie.
Il faut en produire plus. Il faut être capable ensuite de l'utiliser davantage pour mieux récupérer.
Alors, est-ce que tu peux rappeler qui est responsable de cet inconfort musculaire? Alors,
c'est marrant, on y est toujours en fait. Hein. On essaie de chercher. Alors, moi, le dernier article que j'ai en tête, qui devait s'appeler « Biologie de la fatigue », un truc comme ça, avec des jolis petits schémas, on en était à rien de prouvé, mais finalement, ces ions H+, qui ne sont pas produits par la glycolyse, hein, ça, il faut vraiment, ça maintenant, elle est bien établie, l'utilisation du sucre dans la cellule aboutit au lactate, et ça, c'est neutre. Ça n'a pas sorti, en fait, du coup, du ion H+, qui ne sont jamais seuls, c'est bien les contractions musculaires. Mais si on a fait tourner la glycolyse, c'est qu'on a eu besoin de produire beaucoup d'ATP, donc beaucoup de contractions musculaires, et c'est la contraction musculaire qui, en permanence, inonde, en fait, un ion H+, la cellule. Donc, les ions H+, et les phosphates inorganiques, quand ils sont en train de grimper, ces deux-là, parce que quand il n'y en a que un ou l'autre isolé, il a l'air de ne pas se passer grand-chose, quand les deux ont l'air de monter, ça veut dire qu'il y a des capteurs. Là, on a l'impression que c'est comme il était une fois la vie, tu sais, avec le vieux barbu qui est dans le... Et à un moment donné, il était dans une pièce, il y avait des écrans partout. Moi, je prends ça comme image aux étudiants. Mmh. Et quand tu vois des écrans qui s'allument, si ceux-là, tu ne les as pas vus s'allumer d'habitude, j'aime pas trop cette situation. Allez, arrête l'effort. Et puis, au fur et à mesure, on l'a fait une fois, deux fois, trois fois, puis on a vu qu'il n'y avait pas de trous dans les muscles, que le lendemain, on ne boitait pas forcément. On va avoir une petite tolérance à accepter finalement que ces écrans-là s'allument un petit peu, mais il n'y a rien de limite absolue. Mais il n'y a rien clairement identifié. ion H+, phosphate inorganique qui sont en train de grimper, ça pour l'instant a l'air de générer effectivement un arrêt. Mais après il y a d'autres choses, l'augmentation de la chaleur, quand on fait un CRM sur un leg curl par exemple, hein, ou même en biceps, vous sentez que ça chauffe très vite, déjà parce que la contraction musculaire libère en fait de l'énergie sous forme de chaleur, et ça on apprend ça je crois en seconde. Alors maintenant, en seconde, ils apprennent à lire et écrire. Mais en tout cas, nous, à l'époque, on faisait des équations chimiques de ouf. Hein. Et on avait 25% de l'énergie. Enfin, on avait tous nos petits calculs en fait, qui arrivaient. Donc, la chaleur est un frein. D'ailleurs, quand vous avez 42 degrés et que vous avez de la fièvre, sentez quand même que ça ne tourne pas très, très rond. Alors, 42 degrés pendant un quart d'heure, tout va bien. Une heure, pourquoi pas. Bon, 24 heures, c'est un problème. C'est la différence entre la grippe, hein, coronavirus ou autre chose, dès qu'on a de la fièvre qui dure longtemps, et puis un effort sportif. La chaleur, nos petits capteurs, on est déjà en fait pas bien là. Ça suffit. Et puis, dernier petit truc, mais ça, c'est sur les contractions musculaires et les courbatures. Les fuseaux neuromusculaires sont en train de regrimper un peu dans la littérature, en train de se rendre compte que quand ils sont titillés, eux, bah, ils se mettent à décharger. Et les courbatures, en grande partie, c'est justement une souffrance ou en tout cas un signal des fuseaux neuromusculaires. Donc, il ne serait pas étonnant qu'à un moment donné, ils soient capables aussi de dire « Oh là, on a été un petit peu titillé là ». Faut relâcher le relâcher.
Après,
le
de manière globale, il ne faut pas scinder de toute façon le métabolique et le nerveux. Hein. C'est-à-dire qu'on a, toujours séparé les filières énergétiques des paramètres neuromusculaires purs pour une nécessité théorique de compréhension et de formation. Mais entendons-nous bien, quand on enchaîne des séries de 400 mètres, à un moment donné, c'est aussi la saturation neuromusculaire qui va nous freiner. Hein. C'est pas rien, quoi.
Le cerveau le premier qui dit « Oh !» Ça va là.
En revanche, je te rejoins, d'un point de vue méthodologique pur, on est sur une limitation liée à des effets, une progression plutôt, si on parle d'entraînement plutôt, une progression liée à des effets périphériques. Et donc, le premier effet périphérique, c'est l'acceptation, c'est la tolérance, qui est locale et centrale, qui est psychologique et physiologique. Et c'est ce qui fait que d'un jour à l'autre, sur un test lactique, On garde terme, on a souvent une progression. Quoi.
Ouais, une acceptation.
Et qui n'est pas évidemment liée à l'adaptation qui s'est passée pendant la nuit. Hein. On va pas se leurrer.
T'as pas créé des enzymes cette nuit ?
Non. Du coup, voilà,
Ouais, le cerveau.
Tu fais quoi comme test, toi ?
Oh, j'en fais pas. Non, plus du tout. Pour savoir ce qui se passe en lactique, par exemple,
bah, pour essayer d'évaluer les paramètres de glycolyse anaérobie.
Non, vraiment, je ne sais plus ça. À la limite, si on raisonne sur de l'intermittent de haute intensité, je l'aime bien, cet exo, il a 20 ans, en fait. Il a 20 ou 21 ans, je crois. C'est pas Tabata, c'était Jibala qui avait fait ça. Donc, il n'a pas 20 ans, il a 22 ans. C'était le fameux 30 secondes à puissance maximale, en fait, avec une récupération de 3 minutes 30 et ça répété. En fait. Et si tu as un ergomètre, en fait, tu peux voir les watts. En fait. Et les watts, l'idée, c'est qu'ils soient maintenus un peu constants. Alors, comme vous savez que la puissance, c'est un ratio force-vitesse, bon, ben, moi, je retire en fait, de la force à l'individu, puisqu'en fait, si on fait ça sur un Kaiser, par exemple, il n'y a pas que les Kaiser qui fonctionnent bien, il y en a d'autres. Ce qui fait qu'en fait, ils permettent un petit peu tu vois, de fréquence, et on arrive à tenir quelque chose, il faut que je fasse à l'envers avec la caméra, d'assez constant. On a une puissance, ça fait un truc comme ça, et après, ça s'écroule. Et on a le pic et on a la moyenne. Là, l'idée, c'est qu'ils arrivent à rester un peu constants, en fait. Donc là, quand tu vois des 400 watts, que le gars, au bout de 4, il est prêt à vomir, que maintenant, il en enchaîne 6, 8, et qu'il maintient ça.
Ça reste un indicateur d'amélioration.
Ça a progressé. C'est pas le truc archi précis, effectivement, parce qu'on ne l'a pas. J'ai arrêté le test aussi que je faisais, j'aimais bien mon 15-15, c'était 15 km/h, 15% de pente. Il était assez sympa parce qu'il dure une minute, une trente, les meilleurs 2 minutes 08. J'ai jamais eu au-dessus de 2 minutes 08. Alors, faites pas ça chez vous sans supervision. 15 km/h, 15%, ça fait une. 15 km/h, c'est rien du tout en fait. Hein. 15% si c'est quelque chose. Ouais. Donc, déjà pour se lancer, hein, c'est les deux mains, puis bam, bam, bam. Dès qu'en fait on a le rythme, on lâche. Là, quelqu'un lance un chrono. Attention, parce que quand on commence à lâcher, ça va très très vite. J'en ai vu un s'écrouler, et il n'y a pas fait que s'écrouler, je l'ai récupéré. Sauf qu'il pesait 91 kg. Et moi, en fait, à bout de bras comme ça, j'ai fait ce que j'ai pu. Donc j'ai posé le pied sur le tapis, qui était à 15 km/h, à 15%. Bascule instantanée, on en est
reparti. J'ai eu
un trou noir d'une seconde, il s'est réveillé par terre, il avait rien. Moi, par contre, j'ai eu des bleus sur toute la hanche. C'est chouette, c'est filmé. Peut-être qu'un jour je mettrai ça sur Instagram.
Non, attends, on va le mettre
En bonus. La seule fois de ma vie où on m'a filmé faire ce test-là, je crois quasiment. Une fois c'était Canal+ qui était là. Donc c'est là je l'ai gardé. Il y avait un beau score. Voilà, bon. Hormis ça, j'en fais pas plus que ça en fait. Il me parle plus, je vois plus de trucs. Parce que tu l'as dit, c'est multifactoriel. Est-ce que c'est là que ça s'est habitué? Est-ce que c'est en périphérie? Parce qu'il y a de tout, en fait. Il y a vraiment de tout. Bon, mais en tout cas, on a besoin de savoir si notre athlète il progresse, quand même.
Bah, d'une manière ou d'une autre, on a besoin de repères sur cette ligne-là, surtout si on est dans un sport à très très haute intensité, à forte relance de puissance sur des durées.
Curling.
Le balayeur.
Ouais, lui. Ouais, à chaque fois, on prend cet exemple. Mais moi, je prends le lanceur là, c'est le lead.
Lui, c'est un pur technicien. Mais les mecs qui grattent,
ils sont en fréquence. Hein,
j'aimerais pas être à sa place quand même, à mon avis.
Il y a de la fréquence.
Ça serait intéressant de lui prendre ses minima. Je le vois pas en dessous de 15. Hein. Je le vois pas en dessous de 15.
Ah, puis en plus, en production de chaleur, ça va être pas mal. Hein. C'est à tester cette histoire. En tout cas, en fréquence gestuelle, ils sont là, les mecs. Ouais, bon, si on revient donc, encore une fois à notre histoire donc de lactate, bon, il faudrait évoluer. Alors, si on veut faire évoluer les gens qui nous écoutent, je ne sais pas quoi faire, parce que tous les bouquins qui sortent en général, on nous reçoit de l'acide lactique. Alors, je ne vais pas dire, ouais, il faut lire la Bible de la préparation physique.
Alors, est-ce que tu peux arrêter de t'en prendre au français?
Ouais.
J'aimerais que tu arrêtes.
Alors, il y a des trucs nouveaux chez vous?
Je me suis fait piéger parce que on a sorti la planification de l'entraînement, la périodisation de l'entraînement, pardon, de Tu dors bon pas. Dernière édition, donc sixième édition, qui est sortie aux États-Unis il y a 3 mois en amont de la version française.
Là, c'est bien.
4 mois en amont de la version française. Et j'avoue ne pas avoir supervisé personnellement ce projet-là.
Donc, il y en avait dedans?
Et il y en a partout.
D'accord.
Il y en a partout.
Mais en version originale aussi. Dans
Heart Rate Training Monitoring, je ne sais plus c'est quoi le titre en anglais, là, l'entraînement de la fréquence cardiaque qui va sortir. Dans quelques semaines, qui vient de sortir aux États-Unis et qui va sortir dans quelques semaines en France, je me suis pas fait piéger cette fois-là. Et là, on l'a vraiment traqué et il y en avait une bonne vingtaine d'itérations. Quoi. Donc, parfois, comme tu le dis, abus de langage, ça marche. C'est bon, ok. Et puis parfois, non, là, oui, du coup, c'est faux. Quoi.
Ouais,
donc,
c'est
l'erreur perdure au niveau mondial. Et j'irai même plus loin, on a vu passer des articles très très récents hein, qui titrent. L'acide lactique.
Là, je vois encore.
Alors, là, et qui sont publiés et qui sont dans de la vraie science. Quoi.
Je regarde qui c'est. Ouais, c'est le Lancet. Non, mais. Ah, la vraie science, on a eu un super épisode là pendant 3 mois.
C'est formel dans Télépoche.
C'est ça. Ça existe encore, Télépoche. Alors, c'est là où. Déjà que vous savez, là, on vient de vivre un épisode quand même, bon, bah, historique évidemment, mais on vient de voir des gens se faire des guerres, mais où derrière, il y a un enjeu de vie. En fait, c'est beaucoup plus grave ce qui se passe avec le Covid-19 et l'hydroxychloroquine. Donc, l'acide lactique, on est descendu de quelques étages. Là, on frôle d'ailleurs les pâquerettes. Donc, imaginez le nombre d'articles qui ne sont pas vraiment relus, en fait, hein, avant leur parution et toute la fraude scientifique qui est derrière. Moi, je vois passer des thèses aussi, des thèses où il y a encore l'acide. Tout le topo classique, je me dis, mais ça, c'est le bouquin de Bioche de 1970, là, tu l'as piqué à ton grand-père, en fait, réellement. Et on en est là. Donc, c'est pour ça que c'est compliqué pour le jeune, j'ai envie de dire, mal formé, hein, qui derrière dit « Oui, mais alors tout le monde le dit à la télé, les docteurs. » Ouais, c'est pas simple en fait. Si on n'a pas ce recul, si on n'a pas regardé, alors c'est qui a édité ça? Alors c'est le laboratoire de machin. Déjà, ils n'existent pas, ils sont deux. Et il a recité une étude, ça, j'ai vu ça. Quelqu'un qui est venu, en fait, qui se font des lettres aussi. Dans les journaux scientifiques, souvent, il y a une lettre qui répond à l'article, qui répond, ça dure 1 an et demi. On a vu des guerres 1 an et demi, où à chaque édito, le mec répondait à l'autre. Alors, c'est-à-dire qu'il y en a un qui a une position, et là, ils font pas de la science. Parce que là, ils sont en train de savoir qui c'est qui a raison.
On est uniquement dans la controverse.
Ouais. C'est bête et méchant. Et à un moment donné, promis, hein, je vais vous lâcher un scoop, je ne l'ai jamais dit. Une fois, j'ai eu un micro-doute. Hein, réellement, je me suis dit, merde, oh, là, les mecs, ils citent deux références. Oh, je suis allé voir 1985, la première référence. Donc là, j'ai compris, à l'époque, effectivement, on n'était pas au courant de tout. Et l'autre, caca pipi. Donc voilà, je dis, donc il n'y a pas de doute. Donc, dans des articles sérieux, on va trouver ça, dans des bouquins, et pourtant sérieux. Alors, quand c'est un abus de langage, je le passe. Ça me va. Mais tu viens de dire, quand il y a le raisonnement qui va derrière, je dis, ah, c'est gênant, il y a quelque chose qui n'a pas été creusé, là, en fait.
Ouais, ce qui est important pour d'ailleurs, je vous invite à regarder un épisode qu'on avait fait avec Jean-Benoît Morin, est-ce que les sciences du sport sont du cinoche? Et on faisait une analogie avec les bons et les mauvais films, avec les films en VO, avec les critiques de films qu'il faut parfois éviter, se faire son avis personnel.
Bien.
Et c'est exactement ça, en fait, les sciences du sport. Il y a du bien, il y a du moins bien. Et ce qui fait de vous un vrai professionnel, c'est votre capacité à un moment donné à prendre une décision en lisant tout ça et en vous disant, au vu des connaissances que j'ai acquises, que j'ai développées, je vais pouvoir prendre cette position-là Et aujourd'hui, c'est peut-être collectivement, c'est un drame, ce que décrit Didier, parce que c'est la persistance de l'erreur au niveau global, au niveau collectif. Individuellement, c'est l'occasion d'être meilleur que les autres assez facilement.
Yeah, c'est marrant parce que du coup, il y a plein d'idées quand tu parles, et puis après, faut les garder. Moi, ce qui me désole un petit peu, j'écouterais ce podcast avec Jean-Marc dans le train, j'écoutais justement sa conférence qu'il avait fait là, qu'il avait refaite en français d'un truc qu'il avait fait au CIO. J'écoutais ça et puis j'écoutais ce qu'il avait fait aussi au rugby. C'est marrant, tu vois, c'est le hasard. Hein. J'étais là-dessus en fait. J'en ai écouté deux. Donc j'écouterais celui-là. Ça va être intéressant, je pense. Moi, ce qui me désole aussi, c'est les champs universitaires. C'est de savoir que, on n'a rien contre les fonctionnaires. T'es fonctionnaire, toi? On n'a rien contre les fonctionnaires. La preuve, on les aime bien. C'est pas ça le sujet. C'est le fait quand même que des gens, c'est leur métier en fait. Maître de conférence à l'université. Alors soit ils publient en fait 12 articles par an, ce qui est déjà bien. Hein. Soit c'est un non-publiant, ça veut dire que finalement c'est un enseignant, plus qu'autre chose. Et puis il encadre quelques étudiants. Alors si c'est un enseignant, il ne pourra pas qu'il est payé gracieusement quand même. En France, ce n'est pas incroyable. Mais enfin, qu'il y a une belle fonction université qui délivre un vrai message, comment ça se fait qu'il ne cherche pas à mettre à jour ses cours? Parce que là, des erreurs, il y en a. Celle-ci, c'est la plus grande, c'est la plus récurrente. On en rigole. Nous, beaucoup de gens sur Instagram, sur Facebook, nous font des imprimés écrans de cours. Toi-même, tu m'as envoyé un truc, donc je ne citerai pas la source. Mais on a des imprimés écrans de belles institutions et bah, on a le titre qui arrive derrière. Et je me dis donc, on continue à former des entraîneurs comme ça, les maîtres de conférences là-dessus, les sportifs, bah alors là, c'est direct le coupable. Ouais, c'est vraiment embêtant.
Bah, on ouvre une porte systémique, c'est-à-dire que c'est pas tant le fonctionnariat qui est en cause, pour moi, c'est la démarche passionnée, la déontologie, hein, c'est la démarche professionnelle qui est en cause. Et la démarche vraiment systémique, parce que la seule vérité, c'est qu'il n'y a pas de système de mise à jour des enseignants organisé. C'est-à-dire qu'on est encore sur un héritage béotien. Alors c'était bien le BE, hein, c'était un beau diplôme, c'était costaud et tout. Feu le BE, je suis le premier à être triste de l'appauvrissement de nos formations initiales. Ah, et en même temps,
ça peut être un sujet, ça.
C'était le glas. De la formation continue. C'est-à-dire que c'était tellement dur d'avoir un BE2 à CUMES qu'on avait l'impression d'avoir atteint le sommet de la chaîne alimentaire. Et du coup, on était comme ça pendant 45 ans. Et ça, si vous voulez, c'est quelque chose qui perdure dans nos perceptions de la formation aujourd'hui. Et le fondement des BP, hein, c'était un peu ça au départ. C'était de dire non, on veut casser ça. C'était pas le but, c'était pas de faire un truc pourri au départ. Et puis, au final, ça reste une formation initiale qui est juste appauvrie.
T'as changé le terme.
Alors que le but, c'était de déclencher une formation tout au long de la vie des gens. Peut-être que ça va prendre encore 20 ans à se mettre en route. Mais aujourd'hui, effectivement, le mec qui vous a fait un cours il y a 20 ans sur l'acide lactique, il y a 20 ans,
pourquoi pas ?
Il était dans le rythme.
C'était déjà moyen.
Ça commence à être chaud.
Mais pourquoi pas ?
Il était encore à peu près dans le rythme. Il aurait dû le mettre à jour, son diaporama, depuis, et malheureusement, il ne l'a pas fait, probablement parce qu'il ne va pas à l'information comme vous le faites en nous écoutant, ou en écoutant d'autres choses, hein, pas que nous qui délivrons l'information, évidemment, mais en ayant cette démarche d'aller vers le savoir, alors que beaucoup d'anciens attendent, et de jeunes hein, qui sont issus de l'ancien monde, finalement, oui. Attendent que ça arrive, et ça n'arrive pas tout seul.
Et ça pourrait être un sujet, c'est l'appauvrissement des formations ou du contenu de formation. Parce qu'effectivement, les textes d'origine du BP, j'ai eu la chance d'y participer, en fait. Être capable d'eux, en fait, tout un listing. J'ai échangé, en fait, là-dessus. Je faisais partie des consultants, c'était un autre terme à l'époque, peu importe. Et effectivement, dans les textes, c'était prévu qu'il y ait vraiment une formation continue et d'autres formations par la suite, effectivement. Donc, ce n'était pas un nivellement par le bas, ça devait être l'inverse. Puis finalement... Tu viens de dire, on est descendu d'un étage. L'idée du BE final est arrivée en fait au BP où on sait tout, on n'évolue pas trop. Et si on revient sur la littérature, vous voyez, ce qui m'a un peu gêné, j'ai lu un bouquin qui est très bon sur l'endurance. Ça s'appelle l'endurance, hein, c'est pas trop béton à retrouver, hein, le titre est facile. Le mec s'appelle Hutchinson, moi je pense à Starkey Hutch hein, pour me rappeler de Hutchinson, et il est physicien. Physicien, t'es pas entraîneur, mais doctorat en physique. Genre des mecs qui savent aussi chercher en littérature, mais aussi sportifs de haut niveau en endurance. Bah, son bouquin, en fait, pourrait faire pâlir en fait, des gens qui font des cours sur l'endurance en France et qui sont dans des départements STAPS, pourtant très, très bien renommés. Donc, on arrive à trouver quand même ça quelque part. Donc, fouinant, on arrive à
la formation, elle est là. Ok, écoute, on va peut-être se résumer un petit peu à ce stade. Donc, si tu veux bien reprendre les grandes lignes, l'acide lactique, on arrête.
On m'envoyait plus de messages, hein, je les écoute plus.
Arrêtez de dire ça, ok. On a cette glycolyse, okay, dont le trajet du glucose a été bien rappelé par Didier.
Remise à jour il y a quelques années.
Assez clairement, voilà. On y voit clair, là, l'info, on l'a. Voilà. Il n'y a pas vraiment de débat, en fait. C'est ça qu'on essaye de vous dire, en plus, c'est qu'il n'y a pas les pour ou les contre, il y a juste ceux qui sont au courant et ceux qui ne savent pas. Donc voilà, il n'y a pas de controverse, pour le coup, autour du sujet.
Non.
Et par contre, ça implique des choses essentielles sur le plan méthodologique. Okay, c'est que l'idée, ça va être de s'entraîner dans ces intensités-là, d'aller chercher ces spécifiquement ces qualités-là et de s'adapter, principalement de manière périphérique, mais pas que. Il y a des tonnes d'adaptations qui se provoquent à l'entraînement à très très haute intensité. Et du coup, si vous étiez dans une perception où vous cherchiez à éviter d'aller dans ces zones-là, non, allez-y. C'est la spécificité de l'entraînement, c'est ces adaptations-là que vous allez justement... chercher et provoquer. Et j'espère que tu vas revenir sur un autre épisode pour nous parler de l'organisation dans la saison de l'entraînement de ces qualités-là et de voir comment on peut organiser ça.
Et éviter le mal de tête.
Et éviter les trous dans les mains. En tout cas, un grand merci Didier d'être venu participer à ce podcast et partager, vulgariser avec nous toutes tes connaissances, notamment en biochimie particulièrement pointue.
Regarde, placement de produits.
On est évidemment,
ils sont forts.
On est évidemment chez Transfer, mon partenaire digitalisation. Vous pouvez retrouver Didier, il est très actif sur les réseaux sociaux. Hein. Il est évidemment sur Facebook, sur Instagram, où il élève des petits oiseaux.
Ce que je veux dire, là, dernièrement, j'ai récupéré une pie, si ça vous intéresse.
Mais il parle aussi beaucoup de sciences de sport. Donc n'hésitez pas à aller voir. Je vous rappelle qu'il a fait un livre incontournable qui s'appelle La Bible de la préparation physique, qui est en cours de mise à jour.
Co-écrit avec Pascal Prévost, important.
Co-écrit avec Pascal Prévost. Vous nous écoutez sur toutes les plateformes de streaming, Spotify, Google Podcast, Apple ou Deezer. Vous nous regardez sur YouTube. Et rappelez-vous qu'une version augmentée de ce podcast existe et est disponible sur www.broussal-derval.com. Vous pourrez retrouver l'ensemble des épisodes de cette trilogie, mais aussi des épisodes inédits sur le e-campus de Transfer. N'hésitez pas à aller y faire un tour. Je vous remercie de votre fidélité. Didier, à tout bientôt.
À bientôt, merci. Salut, petit loup. C'est le mec des années 80.
Salut, petit clou.
Ouais, c'est des petits clous.
C'était ABD Podcast, votre émission 100% préparation physique et sciences du sport. Abonnez-vous, suivez-nous, partagez-nous. Écoutez-nous sur Google Podcast, iTunes, Deezer, Spotify. Regardez-nous sur YouTube ou directement sur www.broussal-derval.com.